Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte la terrifiante histoire de Jean-Jacques. Jean-Jacques Martial. Un petit réunionnais de 7 ans qui, dans les années 60, sur ordre du gouvernement, comme 1600 enfants réunionnais, a été arraché à sa terre et à sa famille pour être envoyé dans la Creuse. Une histoire très douloureuse, mais qui se finit bien, que j'ai tiré de son livre paru aux éditions des Quatre Chemins, Une enfance volée. J'ai écrit cette histoire avec Marinette Lévy, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je m'appelle Jean-Jacques Martial. Je suis né à Saint-André-de-la-Réunion le 27 mai 1959. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu mes parents ensemble, et ils se sont séparés quand j'avais un an. Mon père s'est installé avec une nouvelle femme, qui évidemment ne nous supportait pas puisque nous n'étions pas d'elle, et ma mère avec un nouvel homme qui, pour les mêmes raisons, ne voulait pas de nous chez lui. Quand je dis nous, c'est moi, mon frère Bernard et ma sœur Léonie. Et donc, on est allé vivre chez ma mémé, dans une case au milieu de beaucoup d'autres. On était petits, on trouvait que c'était la belle vie. On montait au cocotier, au bananier, on croquait la canne à sucre à pleines dents, on jouait au foot pieds nus avec une boîte de conserve, on allait voir des combats de coq, on allait se baigner dans la rivière du Mât presque tous les jours, pendant que mémé lavait son linge. Je n'ai que des souvenirs heureux de cette époque. Heureux. L'amour de ma mémé, la bonne odeur du café grillé, le bruit de la serpe qui tranche la canne à sucre, le soleil, la brise, le ciel bleu, la mer toujours transparente. J'ai tout ça dans ma tête, encore aujourd'hui. Mais une ombre planait sur ce petit paradis. Une ombre qui avait la forme d'une deux chevaux camionnette. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque à La Réunion. On l'entendait arriver de loin. Et là, on se mettait à courir. On allait se cacher dans les champs de canne. Pourquoi ? Oh, je vais vous expliquer. L'État français avait décidé d'envoyer les orphelins de La Réunion en France. Comme ça, ils faisaient d'une pierre deux coups. Ils faisaient baisser la misère dans l'île. Et ils repeuplaient la campagne française. Et dans cette camionnette, il y avait donc les gens de la DAS qui venaient avec le garde champêtre prendre les enfants par deux. J'ai vu des copains disparaître d'une heure à l'autre. On ne les a jamais revus. Et quand il n'y eut plus assez d'orphelins, ils ont pris des enfants comme moi. Des gamins qu'ils ont jugés abandonnés. Un jour, j'ai 7 ans, la deux chevaux vient pour moi. Et pourtant, ma mémé s'occupe bien de moi. Je ne me sens pas du tout délaissé. Elle proteste, ma mémé. Et pourtant, il faut partir. Ils emmènent aussi un autre garçon qui vit chez nous. On était tellement proches que j'ai toujours cru que c'était mon frère. On est montés tous les deux dans la camionnette grise. On n'a rien eu le droit d'emporter. Ni vêtements, ni jouets, ni souvenirs, rien. Un dernier baiser à ma mémé, un dernier regard à la maison de mon enfance. Et la camionnette a démarré. On a beaucoup pleuré dans la voiture. On se retrouve à l'aéroport, à Saint-Denis. Bonjour les enfants. Alors, vous partez pour Paris. Et là-bas, il y a une tante hein, qui vous attend. Elle prendra bien soin de vous. Et dans l'avion, il y aura aussi une personne pour s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. On monte dans une caravelle jusqu'à Madagascar. Et puis dans un Boeing 747. Et on arrive à Paris, à l'aube. Un matin gris d'hiver. Tous les deux, main dans la main, en short, en chemisette et en tongs. Une tata nous attend, mais bien blanche. Bonjour les enfants. Venez, je vous emmène. Elle m'a emmené dans un foyer, et mon frère dans un autre. je ne l'ai jamais plus revue. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis resté dans ce foyer un ou deux mois, je ne sais plus. Et puis un jour, avec d'autres enfants de La Réunion, on nous a mis dans un train pour Guéret, dans la Creuse. Dans le train, les moniteurs n'étaient pas méchants. Mais personne n'a pris la peine de nous expliquer où on allait. On allait dans un autre foyer, où j'ai dû rester 6 mois. Et puis un beau jour de printemps, je vois arriver une dame, la soixantaine, petite, un peu voûtée, habillée comme une fermière avec une robe à pois, un châle, et sur ses cheveux gris un chapeau de paille, et un regard, un sourire qui me rappelle ma mémé. Dès que je la vois, je sens comme une chaleur. Elle me caresse les cheveux, elle me prend la main comme ça, elle me serre dans ses bras, et elle m'embrasse. J'ai l'impression de revivre. Ouf ! Comment t'appelles-tu donc ?
Jean-Jacques.
Ben moi, je m'appelle Amélie. Tu veux venir habiter chez moi ?
Mais oui, bien sûr.
Je ne lui lâche pas la main. J'ai peur de la perdre. Elle signe quelques papiers et on va attendre le car pour la chapelle Taillefer, à 18 kilomètres de Guéret. Mon petit Jaco, je t'emmène dans notre ferme, le Choucha qu'elle s'appelle. Et là-bas, il y a mon Alphonse qui nous attend. C'est mon mari. Tu verras, il est très gentil. On est un peu vieux tous les deux. Puis tu verras, tu seras bien chez nous. Le car arrive. Elle me présente au chauffeur, elle le connaît. Regarde donc qui j'ai là. C'est le petit gosse que je suis allé chercher à la DAS. Je le ramène à la ferme. On traverse une grande forêt, un vallon, il y a des fermes, du bétail, des tracteurs. Oh, je commence à avoir sacrément mal au cœur. Et puis, on arrive sur une grande place avec sa vieille église, sa poste, son café. Et là, il y a tout le village qui attend. Le forgeron, le sabotier, l'épicier, le coiffeur, la couturière. Ils sont venus me voir. L'enfant qu'Amélie est allé chercher au foyer. Et ils m'accueillent, et ils m'embrassent. C'est la première fois qu'il voit un petit noir. Mais il montre de la compassion pour ce qui m'est arrivé. Et il m'accepte tout de suite. J'ai tout de suite l'impression de faire partie de leur existence. Et donc à pied, on va à la ferme. Et la voilà donc au loin, ma nouvelle case, tout en pierre avec de jolis volets verts, entourée d'un jardinet avec des fleurs, des légumes et une chienne. Comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle Mignonne.
Oh toi, je serai ton copain. Je te promènerai. Je te donnerai à manger.
Ah, enfin vous voilà. Il me tardait de te voir, mon petit. Comment t'appelles-tu ?
Jean-Jacques Martial. Et toi, c'est Alphonse ? C'est Amélie qui me l'a dit.
Ils se penchent, ils m'embrassent, et ils me font visiter la case. Dans l'entrée, sur un tabouret, il y a une serviette, un gant, un savon et puis une petite glace. Et là, il y a une porte qui ouvre sur une salle à manger, avec une table immense. Et puis une grande cheminée, une belle horloge, et deux grands lits gigantesques, en bois sculpté.
Alors bon, Amélie, elle dort dans une autre pièce, et nous, on va dormir là, tous les deux. Moi, mon lit, c'est celui qui est près de la cheminée, et tiens, ben, c'est l'autre.
Je rêve déjà que je dors, et je suis sûr que je vais faire de beaux rêves.
J'ai tata, hein? Et Alphonse sera tonton. Et toi, tu seras notre petit oiseau des îles, hein? Tu verras. On va être heureux ensemble.
Ils m'ont aimé. Ils m'ont choyé. Je n'étais pas heureux parce que la blessure était là, mais j'étais serein. J'étais confiant. Et moi aussi, je les aimais. Ça a duré 3 ans. Puis un dimanche d'octobre, un jour de pluie. Ce n'était pas une de chevaux, mais c'était une AMI 8. C'était presque pareil. Sont arrivés Nicole et Roland. Elle, 22, 23 ans, lui, dégarni, plus âgé. Et la tata Amélie m'a dit
« Ils sont venus te chercher pour t'amener à la montagne, hein, toi qui devais te faire du ski. »
Tata et tonton n'avaient pas l'air d'avoir de chagrin. Du coup, moi, j'étais fou de joie. Mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé d'aller chez la maîtresse pour lui rendre les livres et les cahiers? J'ai laissé mon nounours sur mon lit, j'ai embrassé Alphonse et Amélie et je me suis assis dans la voiture, à côté de Nicole qui se montrait affectueuse. Mais moi, je ne ressentais rien pour ces gens. Le courant ne passait pas. On a roulé des heures et des heures, on a dormi à Tours chez des amis, on a roulé encore longtemps, et on est arrivé en haut d'une colline. Et là j'ai vu la mer. Et j'ai compris tout de suite qu'on m'avait menti. On m'a menti. Alphonse et Amélie m'ont menti. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi? Ils seront malheureux? Et les copains au village? Je me fais un serment. À partir de maintenant, je ne parlerai plus. Je dirai oui, je dirai non, mais je ne parlerai plus. Bien. Eh bien, nous voilà à Saint-Vallaougue, dans la Manche. Et là, voilà ta nouvelle maison. On a 2 petits garçons. Ils nous attendent avec impatience. Il y a Boris qui a 4 ans et Mehdi qui a 2 ans. J'ai 11 ans. Et à partir de maintenant, accrochez-vous. Parce que maintenant commence le moment le plus pénible de ma vie. Les enfants, on a une surprise pour vous. Voilà. Vous avez un grand frère. Il s'appelle Jean-Jacques. Et là, je me retrouve face à 2 enfants tout blancs. Je les embrasse. Ils me parlent, mais je ne réagis pas. Je suis encore sous le choc de la séparation et du mensonge. Je ne sais pas quoi faire. Crier? Me sauver? Me recroqueviller dans un coin? Une dame âgée s'approche.
Bonjour. Je suis la mamie de Boris et Mehdi, et je serai donc aussi la tienne.
La maison est beaucoup plus moderne. La chambre est petite, mais elle est mignonne, les murs sont bleu ciel, et sur mon dessus de lit, il y a des voitures de toutes les couleurs. On mange, les enfants font les fous, mais moi, je ne dis rien. Arrive l'heure du coucher, Nicole range mes affaires, elle me parle, hein, mais je suis devenu muet. Je ne serai plus Jaco, le petit oiseau des îles. J'ai pris un bain chaud pour la première fois de ma vie. Je me suis brossé les dents aussi pour la première fois. Et je suis allé à l'école. J'ai passé toute ma journée à pleurer. Et quand la maîtresse, Madame Leborgne, m'a apporté mes livres et mes cahiers, je me suis aperçu que j'avais changé de nom. Je ne m'appelais plus Jean-Jacques Martial. Je m'appelais Jean-Jacques B. Mais de quel droit ils ont fait ça? De quel droit? Ils veulent m'adopter. Est-ce que j'ai d'autre choix que de dire oui? Mon premier Noël chez eux est impressionnant. Je reçois un nouveau vélo, 2 voitures télécommandées, des vêtements, des chocolats. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est une carte postale d'Alphonse et Amélie. Je découvrirai plus tard qu'ils ne m'ont pas abandonné. J'étais juste chez eux, dans l'attente d'être adopté. Un été, Roland me ramène là-bas. Allez, vas-y. Tu as une demi-heure, je t'attendrai dans la voiture. 30 minutes, alors que je ne les ai pas vus depuis 3 ans, les salauds.
Oh, mon petit oiseau des îles, mon petit Jaco. Enfin, te le voilà.
Ils sont devenus vieux. Ils me disent que sans moi, leur vie s'est éteinte. J'y suis retourné l'été d'après. Mes nouveaux parents sont de gauche. Mon père Roland est professeur d'histoire géo au collège d'à côté et il est élu communiste au conseil municipal. Et ma mère Nicole est écologiste. Ils font chambre à part. Et elle a un amant, je le sais, je l'ai vu. J'ai 14 ans maintenant. Et un jour, avec Roland, on va à Paris rejoindre Nicole à une manifestation d'écolos. Et on s'arrête en route pour dormir à l'hôtel. Et après dîner...
Tiens, mon petit Jean-Jacques, voilà un verre de whisky. Il faut que tu deviennes un homme, hein ?
J'en bois deux. Et là, je commence à voir flou. Et à rigoler. Alors il m'aide à me coucher.
Et il me viole ! Il me viole !
Ce sera notre secret. À tous les deux.
Je n'arrive plus à dormir. Je le hais. Je le maudis.
Je n'ai rien dit, bien sûr. Un mois plus tard, ils ont reçu le décret d'adoption simple. À la maison, ça barde entre Nicole et Roland. Et à Pâques, je la vois partir avec Boris et Mehdi, la voiture chargée jusqu'à la gueule. Et après les vacances, elle ne revient pas. Et une fois de plus autour de moi, le monde s'écroule. Et maintenant, Roland est en dépression. Et il continue de me violer régulièrement. Et moi, je ne peux rien dire. J'ai peur de retourner à la DAS. Alors je me tais. Je fais semblant. Les années passent. Je n'ai plus aucune nouvelle de Nicole, ni de Boris, ni de Mehdi. Roland a vendu la maison. On vit dans une caravane, comme des clochards. Alors je devance l'appel pour partir faire mon service. Et puis finalement, je suis réformé, je suis trop maigre, 49 kilos. Et là, je décide de prendre le large. Pendant 4 ans, en stop, je traverse la France de long en large. Je travaille de ci, de là. Et un jour, à Valmorel, dans les Alpes, je tombe sur une fille du village, une fille de Saint-Va, Madeleine. Et je tombe amoureux. Et du coup, je retourne à Saint-Va. On loue une petite maison à 200 mètres de la mer. On a des poules, un jardin, des légumes. Mais Roland, mon père, est toujours là. Et la famille de Madeleine l'invite à dîner. Et il ose jouer les victimes.
Tu m'as abandonné, mon petit Jean-Jacques, hein? Tu t'occupes plus de moi.
Et évidemment, Madeleine et ses parents ne comprennent pas pourquoi je suis si dur avec lui. Je me suis marié avec Madeleine. On a eu une petite fille, Morgane, et un petit garçon, Sidney. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. On a été heureux. Et mon soi-disant père Roland était toujours là, dans les parages. Et Madeleine ne comprenait toujours pas pourquoi je le rejetais. Bref, à peu près vers mes 36 ans, j'ai fait 2 infarctus. Et dans la foulée, une dépression. Et finalement, une tentative de suicide. Je me suis tailladé les veines. Et c'est donc mon médecin de famille qui a été le déclic.
Je pense, Jean-Jacques, que vous devriez consulter un psychiatre.
Et le psychiatre, je lui ai tout raconté. Mon départ forcé de la Réunion, mon arrivée dans la Creuse, mon 2e arrachement, le divorce de Roland et Nicole, les viols. J'ai enfin craché ce qui me pourrissait la vie. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai tout dit à Madeleine. Elle ne m'a pas cru. Il a fallu que le psy intervienne pour qu'elle comprenne. Et puis je suis allé chez Roland.
Je viens te prévenir que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Car j'ai l'intention de porter plainte.
J'ai porté plainte à la gendarmerie. Ça a été dur, mais il n'y a pas eu de suite. Selon le procureur, je lis, l'action publique se trouve éteinte du fait de la prescription, les faits étant trop anciens. C'est comme ça. Et maintenant, je ne pense plus qu'à une chose. Je veux retrouver ma famille. Pourvu qu'ils ne soient pas tous morts. Alors j'écris à la mairie de Saint-André de la Réunion, est-ce que j'ai encore de la famille? Ils mettent un temps fou à me répondre. Et puis un jour, une enveloppe marron arrive dans ma boîte aux lettres. Ma maman est vivante et elle attend le plus vite possible de mes nouvelles, comme ma sœur Léonie et mon frère Bernard. J'ai leur adresse, j'ai leur numéro de téléphone. Je vais d'abord appeler ma sœur. Oh, j'y arrive pas. Madeleine, fais-le, va. Tu peux appeler à ma place.
Allô?
C'est son mari qui répond. Léonie dort, il est 4h du matin, mais il va la réveiller. Et elle parle d'abord toutes les deux avec Madeleine. Moi, je ne peux pas. Et puis elle me la passe. Et là, j'apprends que mon père est mort. Que jusqu'au bout, il a espéré me revoir. Et le lendemain, je parle à ma maman.
Oh, bonjour, mon fils. Mon Jean-Jacques. Oh, mon petit. Je pensais plus te revoir. Je te croyais mort. Je t'ai jamais oublié, Jean-Jacques, jamais. Je suis si impatient de t'embrasser. Oh, oh, oh. Il me tarde de te toucher.
Et après, j'ai parlé à mon frère, Bernard. Nous irons à la Réunion, aux prochaines vacances, avec Madeleine et les enfants. On s'est écrit, on s'est envoyé des photos, et j'ai demandé au garde des Sceaux qu'il me restitue mon nom. Et on s'est envolé pour la Réunion. Et au petit matin, par le hublot, j'ai aperçu mon île au loin. En sortant de l'aéroport, j'entends des Jean-Jacques partout. Ils sont venus à 30 et je vais droit vers ma maman. Et je l'embrasse et je la serre. Et mes enfants, Morgane et Sidney. Tu marches pieds nus, mamie? Je suis un homme heureux. Je suis Jean-Jacques Martial. 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 Je suis chez moi. J'ai retrouvé mon nid. Alphonse et Amélie, qui sont morts depuis, auraient été si heureux de ce qui m'arrive.
Aïe!
Et Jean-Jacques habite désormais à La Réunion. Il est dans un studio, je crois, à Radio Freedom. Vous êtes là, Jean-Jacques?
Oui, Christophe.
Comment allez-vous, Jean-Jacques?
Bien, pas bien.
Les deux?
Ça dépend de l'histoire que j'ai vécue, malheureusement.
Dites-moi, Jean-Jacques, je vous entends parler, là. Vous avez retrouvé l'accent de La Réunion?
Ah, une bonne question, Christophe, car il n'y a pas si longtemps que je recose créole, comme on dit, et même m'y écris un peu, mais j'ai eu tellement ce blocage en France, parce que quand je suis arrivé en France, tante et tonton, soi-disant, ne causent pas petit nègre, donc ça m'a fait un blocage tellement fort que c'est à partir de... Il y a 6 ans que je m'y recose mon dialecte, un peu, disons.
Alors, il faut qu'on raconte 2-3 choses qui se sont passées après. On pouvait s'en douter, d'ailleurs, ça, l'histoire avec Madeleine n'a pas continué, vous avez divorcé.
Oui.
Ensuite, vous êtes tombé dans l'alcool.
Oui.
Est-ce qu'il vous est arrivé depuis de revenir en métropole? Ou est-ce que, du coup, vous ne voulez plus y aller?
M'y gagne plus revenir y vivre en France. Mais de venir passer quelques jours en vacances chez mon fils et ma fille qui habitent à Narbonne, oui. Et quand il faut venir pour travailler, disons, auprès de l'État, au ministère de l'Outre-mer, m'y vient. Voilà. Mais il me tarde de rentrer le plus vite possible.
Je m'en doute. Il faut qu'on revienne, évidemment, Jean-Jacques, sur le début de l'histoire, parce que je crois que vous savez, maintenant, dans quelles conditions la DAS vous a emmené à l'époque, alors que vous aviez des parents et que vous n'étiez pas abandonné du tout, vous n'étiez pas orphelin. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu accès au dossier de la DAS?
Exactement, c'est quand je suis revenu en 2002, accompagné de mon ex-épouse et puis Morgane de Siné. Ma maman et puis ma famille réunaise m'ont dit, mon petit Jean-Jacques, c'est ta tante Claire qui t'a vendu. C'est pour cette raison que j'ai été exilé en France.
C'est-à-dire qu'elle a raconté que vous étiez orphelin et délaissé surtout, que personne ne s'occupait de vous, c'est ça?
Oui, mais quand on vend un être humain, c'est pour avoir de la monnaie, n'est-ce pas?
Elle a été payée
surtout,
selon vous?
Et oui, mais surtout, elle s'est mariée, il me semble, 4 ou 5 fois, mais pas avec des SDF, hein, avec des gros bourgeois. Alors vous comprenez que cette tante aimait bien beaucoup la monnaie.
Il faut prononcer un nom, là, maintenant. C'est celui de Michel Debré, ancien Premier ministre du Général de Gaulle, l'un des pères de la Constitution de la Ve République, et ancien député de La Réunion. C'est lui qui est à l'origine de cette folie, n'est-ce pas?
Exactement, mais il n'est pas le seul. Il y a l'administration à La Réunion, les administrations à Paris.
Quelle était leur idée, selon vous, Jean-Jacques, d'après ce que vous avez compris?
Ben, disons que il y avait tellement de naissances. Michel Debré, quand j'étais chez ma tata, chez mon tonton, au Choucha, à la Creuse, je l'attendais causer au micro, faites des enfants, pour toucher des allocations familiales. Il aurait pu dire, faites des enfants, et puis telle année, que ce soit stabilisé, avoir 2 enfants, et c'est tout.
À votre connaissance, Jean-Jacques, est-ce que les Français, par les médias, par la télé de l'époque, par les journaux, étaient au courant de cette décision hallucinante de prendre 1600 petits réunionnais et de les envoyer repeupler les campagnes françaises?
Non, pas du tout. Quand j'ai dénoncé cette histoire-là ahurissante, invraisemblable, tous vos confrères médias, je les ai reçus un par un chez moi à Coursan. Et j'avais tout prévu en possession, j'avais acheté des mouchoirs en papier. Je les ai reçus un par un, comme un noble, humble, et en sachant garder ma dignité.
Et ils sont tombés de l'armoire. Ils ne la connaissaient pas, ils ne la soupçonnaient pas, cette histoire.
Non, ils l'apprenaient, voilà.
Et les politiques, ils étaient au courant, parce que en 2014, vous avez remporté une victoire tout de même. L'Assemblée nationale, dans une résolution, a reconnu la monstruosité de ce qui s'était passé pour vous et pour les autres.
Exactement, mais avant ce passage du 17 février 2014, que je n'oublierai jamais, en étant à l'Assemblée nationale, par notre député Éric Abrège, avant, en 2013, notre présidente départementale, Mme Nassima Nandor, la stèle à l'aéroport du Gilo, j'ai eu le prix du mérite départemental en 2014. Et après, comme vous venez de dire, à l'Assemblée nationale, puis après, en 2016, la création de cette commission d'experts de ce mémoire dite Enfant Rien de la Creuse ou Enfant de la Creuse. Et pour moi, ce fut, et ce sera toujours une grande victoire pour moi. Car, comme tu as erroné tout à l'heure, j'ai fait piller l'État pour que l'État me restitue mon nom biologique, seul, sans avocat, sans personne.
Jean-Jacques, sur les 1600 enfants qui sont partis, de combien avez-vous des nouvelles? Combien sont rentrés? Et de combien avez-vous perdu la trace?
Ce n'est plus 1600 marmailles, ce sont 2150 marmailles.
Le chiffre a augmenté.
Ah oui, parce que dans ce rapport officiel, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai lu 3 fois, et la réalité et la vérité sont écrites, et donc c'est et on est 2150 marmailles.
Voilà. Vous avez eu des nouvelles de certains d'entre eux ? Vous vous êtes retrouvés
Oui, à un moment, nous sommes retrouvés pour la première fois en 2003, pour leur prévenir à mes frères et sœurs exilés qu'il fallait que nous soyons une grande association pour avoir une telle force devant la grande muraille qu'est l'État. C'est pas rien, ça, l'État, vous savez. Mais même au départ, quand je suis revenu en 2002, quand j'ai rencontré ce président de Racine en l'air, j'étais accompagné de Nathalie Gillot, VSD, journaliste VSD. Au début, ça commençait bien, la causerie. Mais à la fin, quand je leur ai demandé « Je vais porter plainte contre l'État. Est-ce que vous êtes autour de moi, oui ou non ?» Ben, ils m'ont répondu non. Et moi, je m'en foutais que je sois seul contre la grande muraille de l'État. Parce que j'étais éduqué, instruit et surtout formaté. Donc, j'étais complet pour affronter cette grande muraille de l'État.
Et alors, il y a une belle histoire dans ce cauchemar, Jean-Jacques. C'est votre rencontre avec Alphonse et Amélie. J'ai le sentiment, parce que vous avez pour eux des mots tendres et uniquement tendres, qu'ils font partie de votre famille de cœur encore aujourd'hui. Quelle place est-ce que vous leur donnez ?
Ben, Christophe et tous les auditrices, auditeurs, ben, ils sont au fond de mon cœur, jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. C'était si beau, si riche. Ils le méritent bien qu'ils soient au fond de mon cœur. Et tous les jours, je vis avec eux, parce que chez moi, ils m'ont offert des cadeaux de la ferme, comme les sabots de mon tonton, comme la hotte que je portais des fois, la radio de mon tonton, des potiches, la pelle à pain, les râteaux en bois. Je vis parmi les autres.
Ils sont de votre famille ?
Et oui, depuis que je suis arrivé chez eux, voilà. Et même tous ces villageois, ils sont tous au fond de mon cœur, voilà.
Vous y retournez là-bas ? Vous y retournerez un jour ?
Je suis retourné 6 fois avec mon beau-frère et belle-sœur, mon épouse. Mon épouse et moi, nous avons montré notre fille Morgane.
Vous la avez présentée à Alphonse et Amélie.
C'est drôle, mais il m'attendait, m'a venu que je sois présent pour que qu'ils puissent souffler leur dernier souffle.
C'est-à-dire que vous avez pu leur parler juste avant qu'ils ne meurent ?
Ça même. C'était, disons, de l'amour propre.
Parce qu'après, il y a eu de l'amour sale. Alors, il faut qu'on parle aussi de ce couple de gauche. Ça vous inspire quoi ? Qu'ils aient été de gauche et au final si négligents ?
Disons que c'est une grande richesse. Ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens. Tu te rends compte, Christophe, à l'âge de 12 ans, j'avais des posters de Mandela dans ma chambre. Et à l'âge de 11 ans, enchaîné sur les grilles de la centrale nucléaire de La Hague devant les CRS.
Ils t'ont éduqué, ils t'ont formé et tu leur réponds que tu leur dois ça au moins.
Eh oui, mais bon, ils m'ont apporté beaucoup. Si je suis présent là aujourd'hui même, bah c'est grâce à eux aussi.
Vous êtes resté en lien avec Nicole, je crois ?
Bah, pas trop. Bon, c'était, disons, du donnant-donnant, comme on dit. Je lui ai dit, il va falloir que tu écrives un courrier pour mon avocat, en précisant bien que tu ne pouvais pas être ma mère adoptive, car on n'avait pas assez de différence d'âge. Ce sont des lois de Bonaparte. Il aura fallu 15 ans de plus. Et donc, j'avais 11 ans, et Nicole devait avoir 22-23 ans, donc elle ne pouvait pas être ma mère adoptive.
En vérité, vous n'avez été adoptée sous la forme de l'adoption simple que par Roland. Hein. Nicole n'était pas votre mère adoptive. Vous êtes parvenue, ça a été compliqué à rompre cette adoption.
Oui, seul.
Sans
pas
avocat.
D'avocat, sans aucune association.
Roland, vous a-t-il, Jean-Jacques, un jour présenté ses excuses ?
Le 27 mai 2011, mi-temps, le téléphone sonnait. Le bougre se présente comme Roland. Roland. Je lui dis, En haut, Roland. Il me dit oui. Je lui demande, mais pourquoi vous me téléphonez comme cela? Il ose me répondre pour te souhaiter bon anniversaire. Je lui ai répondu aussitôt, si tu mets les pieds ici, sur ma terre, sur mon île, mijote à eau au grand requin blanc.
À la fin de votre histoire, Jean-Jacques Martial, on a envie de vous dire pardon. C'est idiot, hein. Mais on a presque le même âge. Et je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un de ma génération a pu vivre une telle horreur organisée par l'État français. Alors c'est un peu comme si la France de cette époque vous disait pardon. Vous acceptez ce pardon?
Oui, parce que aujourd'hui, depuis le 28 mai 2013, à La Réunion, quand notre président Nassimé Nandor a reconnu cette déportation, cet exil. Et depuis, ça s'est tellement intensifié. Hier, j'étais le plus grand rebelle de l'État de la DAS. Et aujourd'hui, l'État, c'est ma famille.
Merci Jean-Jacques d'avoir accepté, après toutes ces années, de revenir sur cette histoire. Le livre de Jean-Jacques Martial s'appelle « Une enfance volée ». Il est édité aux éditions des Quatre Chemins.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.